Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour les débats, on commence avec un petit peu de retard aujourd'hui pour débattre. Jean-Claude Beaujour, bonjour, vous êtes avocat vice-président de France Amérique. Alexis Poulain, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve également tous les mardis matins sur Sud Radio pour l'édito politique. Et puis Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. François Coq, enseignant essayiste et auteur de l'impératif démocratique. Pas mal de sujets évidemment. Aujourd'hui, il y a dans l'actualité évidemment l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir, un allègement, lapsus intéressant jusqu'où, les vaccins, les prochains enjeux pour Emmanuel Macron, et puis Danone et le plan social, on n'a pas eu le temps d'en parler hier, et puis ces migrants évacués, place de la République. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention, on va commencer avec vous Jean-Claude Beaujour, bonjour. Coup de cœur que je partage pour le livre de Sylvain Tesson, plus précisément cette édition magnifique. Je vous laisse nous raconter pourquoi vous avez un coup de cœur pour Sylvain Tesson.
C'est l'énergie vagabonde qui nous donne envie d'aimer et de découvrir la Terre. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est voyage a une dimension un petit peu trop commerciale, où finalement la notion d'explorateur, les valeurs d'exploration, de découverte simple, étaient complètement anéanties. Et c'est vrai qu'on a envie, avec Sylvain Tesson, de partir à la découverte de notre planète, de faire de vrais voyages. Et moi, pour moi, c'est l'imaginaire, c'est mon enfance, c'est Tintin, il y a un côté explorateur et ça me plaît beaucoup, surtout par ces temps de confinement.
Oui, absolument. Et puis c'est dans cette collection bouquin qui est absolument épatante. Vous en avez pour votre argent, j'ai envie de dire, parce que c'est un énorme volume. Et Sylvain Tesson est une personnalité effectivement assez atypique et tout à fait intéressante. Alexis Poulain, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule ?
Oui, coup de cœur et coup de gueule, puisque c'est le coup de gueule de Coluche qui avait fondé les Restos du Cœur. C'est le 36e hiver des Restos du Cœur. Et rappelez-vous, quand Coluche avait lancé cette association, elle ne devait pas durer longtemps. C'était vraiment pour un hiver. Et voilà que c'est le 36e hiver, avec plus d'un million de nouveaux bénéficiaires qui risquent d'arriver avec cette crise sociale qui ne fait qu'empirer. Donc il faut féliciter les bénévoles qui y travaillent, il faut bien sûr les encourager, les aider, aider les restos et se dire qu'il y a un truc qui tourne pas rond quand on en est au 36e hiver d'une ONG qui aide à manger. Il y a vraiment quelque chose de cassé dans la société.
Avec en plus une pauvreté qui s'accroît, avec une pauvreté qui s'accroît de plus en plus et où on voit qu'il y a de plus en plus de pauvres et de gens qui vont
et de jeunes
absolument, ouais. Croix-Rouge, Resto du Cœur et autres qu'il faut également citer. Je ne sais pas si on a le temps pour un autre coup de gueule, celui d'Arnaud Benedetti. Non, on va y aller. Et ben, ce sera notre coup de gueule, celui d'Arnaud Benedetti et celui de François Coq, dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio dans quelques instants pour commenter l'actualité. Emmanuel Macron parle ce soir à 20h, un allègement. Mais décidément, il faudrait qu'on ait un psychiatre parce que je bute sur ce mot d'allègement. J'en suis à allongement. Jusqu'où les vaccins, ce sera le prochain enjeu d'Emmanuel Macron. Et puis cette scène choquante hier, place de la République, des migrants évacués, des images choquantes, une instrumentalisation aussi de ces migrants. On parlera de tous ces sujets avec vous dans un tout petit instant. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Nous sommes ensemble pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France Amérique, Alexis Poulain, journaliste, directeur de publication du Monde Moderne, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et vous avez publié Le progrès est-il dangereux chez Humain Science. Il va bientôt falloir une émission entière pour citer tout ce que vous faites.
Oui, je trouve que c'est beaucoup. Ouais.
Et François Coq, enseignant essayiste, et vous avez publié L'impératif démocratique. Arnaud Benedetti, c'était un coup de gueule.
Oui, c'est l'annonce qui est passée d'ailleurs presque sous les radars de la nomination à l'Élysée de deux nouveaux conseillers politiques. Alors, c'est pas le fait qu'on nomme deux conseillers politiques, moi, très surprenant, en l'occurrence, c'est surtout que ces deux conseillers politiques sont tous les deux parlementaires. L'un est parlementaire européen, c'est M. Séjourné, qui a été un des responsables et créateurs d'En Marche, et l'autre, il est parlementaire à l'Assemblée nationale, c'est M. Soler. Alors, bien évidemment, on nous opposera que cela s'est certainement fait par le passé, mais ce n'est pas parce que cela s'est fait par le passé que ça justifie aujourd'hui ces nominations. Ça pose un problème de fond quand même, me semble-t-il, c'est que quand même, dans la démocratie dans laquelle nous vivons, il y a un principe de base qui est celui de la séparation des pouvoirs, tout simplement, entre d'un côté le législatif et l'exécutif. Moi, je trouve que cette nomination a quelque chose de fondamentalement choquante et que, par ailleurs, elle traduit quand même un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on le fait de manière assez décomplexée, comme si on s'affranchissait des bonnes mœurs de la République, en l'occurrence. Et je suis assez surpris d'ailleurs que finalement cette nomination fasse peu pour l'instant controverse, en l'occurrence, parce que, in fine, encore une fois, il me semble qu'il s'agit d'une liberté que l'on prend avec un principe qui est celui de la séparation des pouvoirs dans notre démocratie.
Ça s'est déjà fait par le passé, non ? Il y a déjà eu, vous avez en tête des exemples de parlementaires qui ont été nommés.
Oui, je crois que ça s'est fait par le passé, en l'occurrence. Mais encore une fois, le fait que ça se soit fait par le passé ne constitue pas.
C'était le nouveau monde.
Une excuse aujourd'hui. En effet, on est, paraît-il, dans un nouveau monde qui devait assainir les pratiques politiques. Et on se retrouve finalement avec un monde qui fonctionne exactement comme le monde du passé.
Mais ça veut dire que ça veut dire
de manière plus décomplexée.
Oui, mais ça veut dire quoi pour ces deux députés, l'un européen, vous l'avez dit, et l'autre qui siège à l'Assemblée, Thierry Soler, ils vont devoir démissionner de leur mandat de député ou ils vont occuper les deux fonctions ?
Pas du tout. Non, il n'y a pas de démission, bien évidemment, des deux parlementaires, tant de M. Séjourné que de M. Soler. Ils vont tout simplement disposer d'un bureau à l'Élysée, alors sans qu'ils soient manifestement rétribués. Ça, c'est, je crois que le communiqué qui a annoncé cette nomination a bien précisé les choses, mais encore une fois, c'est, disons, me semble-t-il, une anomalie qui ne devrait pas exister finalement dans une république qui fonctionne, j'allais dire, normalement, en l'occurrence. Ouais.
On a un auditeur qui, hier, Michael, nous dit « La nomination de M. Séjourné, compagnon de Gabriel Attal, si c'était une femme, on aurait dit favoritisme. » Ce qui n'est pas entièrement faux. On va dire que la vie publique, la vie privée, à chaque fois, on dit qu'on ne doit pas l'évoquer. Mais c'est vrai que si ça avait été la compagne, je dis n'importe quoi, d'un ministre ou autre qui serait arrivé à l'Élysée, on aurait parlé de favoritisme. Or là, c'est vrai que ça n'a pas été non plus évoqué. Okay, mais c'est en marge de ce que vous dites, effectivement, sur cette séparation des pouvoirs. Est-ce que vous voulez, François Coq, commenter ce que vient de dire Arnaud Benedetti ?
Oui, je trouve qu'Arnaud Benedetti met le doigt sur quelque chose d'extrêmement important et qui va continuer à nourrir la crise de la représentation que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, le député qui représente la nation tout entière, aujourd'hui, voit cette tâche tordue, puisqu'il va l'exercer en même temps cette tâche de représentation populaire et dans le même temps être dans une tâche exécutive. Finalement, on passe d'une tâche de représentation à un pouvoir qui est un pouvoir délégatif dont le peuple n'est plus finalement, d'une certaine façon, le détenteur. Donc, ça apparaît comme du détail, mais finalement, c'est la structuration et le principe même de la vie démocratique qui est altéré. Et comme il est altéré par petites touches en permanence, eh bien, on voit bien un délitement général qui se produit.
Oui, Alexis Poulain et après Jean-Claude Beaujour sur cette question qui a été très très peu abordée. Vous avez raison de le dire, Arnaud Benedetti, et qui pose une vraie question.
Mais au-delà de ça, oui, il y a une pratique du pouvoir qui n'aime pas les contre-pouvoirs, une déliquescence totale des institutions avec cette armée de la République en marche qui n'a pas conscience du mal qu'elle fait à la République. Il faut voir qu'autour d'Emmanuel Macron, il n'y a que des gens gens qui ont des épées de Damoclès judiciaires au-dessus de la tête, y compris le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. C'est le gouvernement du conflit d'intérêts permanent, érigé en règle. Thierry Soler est recruté, lui aussi, que conflit d'intérêts, hein, avec les lobbies du retraitement des déchets, je crois. Donc, on est... On ne s'en offusque même plus. C'est-à-dire que, ce quinquennat est un quinquennat de la honte, mais assumé. Le mot-clé, c'est j'assume. J'assume d'être entouré de gens qui sont potentiellement de futurs repris de justice et de casser la séparation des pouvoirs et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de contre-pouvoir. C'est extrêmement grave. Il serait temps que l'opposition se réveille.
Jean-Claude, bonjour.
Oui.
Pierre-François Coq. Oui.
En tant qu'avocat, j'ai envie de vous dire, moi je relis un petit peu, relis les textes, le pouvoir exécutif, le pouvoir parlementaire, le pouvoir parlementaire exerce une mission de contrôle. Alors c'est vrai qu'exercer une mission de contrôle quand on exerce une mission d'exécution, il peut y avoir un souci. Moi je pense que si le président m'avait demandé mon avis, j'aurais dit je peux imaginer qu'il puisse avoir besoin de ces deux députés comme conseillers politiques. À ce moment-là, ils pouvaient très bien exercer les fonctions de conseil politique en restant dans leur parti respectif, conseiller le président, restant dans leur parti respectif. Moi, c'est un peu la solution intermédiaire que j'aurais proposée au président de la République.
Oui. Oui, et François, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, ces nominations de parlementaires à l'Élysée sont en réalité un symbole. C'est le glissement du pouvoir réel, du pouvoir législatif, vers le pouvoir exécutif, du Parlement vers l'Élysée. Le pouvoir devrait être au sein du Parlement, c'est l'endroit où se fait la loi, qui est l'expression de la volonté générale. Et on voit bien que les parlementaires ne sont d'une certaine façon pas utiles ou opérants là-dedans, et que pour avoir une efficacité pour être entendu et pour pouvoir peser dans le débat public, c'est pas en tant que parlementaires qu'ils peuvent le faire, mais ils sont convoqués en tant que conseillers à l'Élysée. Il me semble que beaucoup de choses sont résumées, malheureusement, dans le triste glissement que nous connaissons actuellement et qui prend une vitesse folle avec
Emmanuel Macron. Très peu de réactions, hein, encore une fois, Arnaud Benedetti, très peu de commentaires.
Non, mais c'est l'expression d'une confusion des pouvoirs et d'une interprétation très personnelle des institutions, en l'occurrence. Et c'est ça qui me paraît assez grave. Et encore une fois, le fait que ces pratiques aient pu exister par le passé ne justifie pas du tout le fait qu'elles se reproduisent aujourd'hui. Donc il y a un vrai sujet. C'est étonnant en effet que d'ailleurs les oppositions ne se soient pas saisies pour l'instant de ce problème. Mais encore une fois, moi je pense que ça traduit malheureusement une forme de d'appréhension très décomplexée des pratiques politiques. C'est-à-dire que par le passé, ça se faisait, c'était plus hypocrite, mais quand même, on avait d'une certaine manière la conscience qu'il fallait d'une certaine façon le cacher. Là, en l'occurrence, on ne le cache même plus. Je trouve que, ça ne justifie pas, bien évidemment, encore une fois, ce qui se faisait par le passé, mais je trouve que ça dit quelque chose sur l'état d'esprit, de l'exécutif et de cette majorité qui s'affranchit d'un certain nombre de règles de bonnes mœurs politiques.
Très bien. François
Coq. Démocratique.
Ouais. François Coq, coup de gueule contre le ministre de l'Éducation, ça ne nous étonne
pas. Cette majorité qui s'affranchit d'un certain nombre de bonnes mœurs politiques, moi je voulais revenir sur l'affaire Blanquer et les poupées russes qu'elle représente, puisque on a vu la collusion qu'il y avait entre Jean-Marie Blanquer
Jean-Michel Blanquer,
ministère de l'Éducation nationale et le syndicat Avenir Lycéen, puis le syndicat Avenir Éducation. Tout ça a été révélé à la fois par Mediapart et par Libération. Mais moi, je viens sur le dernier épisode, qui est que dimanche, en fin de journée, le ministre Jean-Michel Blanquer était sur le plateau de RTL et qu'il a dit à cette occasion qu'il n'avait rien à voir, rien, ce sont ses mots, avec Avenir Lycéen, avec Avenir Éducation. Sauf que dès le lendemain, Mediapart a sorti de nouvelles révélations hier soir pour attester, au contraire, que Jean-Michel Blanquer avait reçu le syndicat le 2 juillet, cet été, le 2 juillet 2020, quelques jours avant que le syndicat Avenir Lycéen crée la maison mère Avenir Éducation. Autrement dit, très concrètement, Jean-Michel Blanquer a menti. Il a menti dimanche soir sur le plateau de RTL et l'article et les révélations de Mediapart en attestent. Ouais. Moi, je dois dire que cette pratique du mensonge permanent, à un moment donné, pose un vrai problème, parce que Jean-Michel Blanquer est spécialiste du genre. Tout le monde est conscient que sur le nombre de cas positifs à l'école, par exemple, ça a été révélé par les chiffres de Santé publique France, les chiffres donnés par le ministre étaient faux, étaient sciemment faux. De la même manière, quand Jean-Michel Blanquer nous dit que l'investissement le plus important pour lui, c'est l'investissement dans l'éducation, alors que c'est lui qui a supprimé 60 000 postes en tant que directeur général de l'enseignement scolaire, ou qu'il en supprime encore 1 800 l'année prochaine dans le secondaire, et qu'il en a supprimé plus de 7 500 dans le secondaire depuis qu'il est ministre, il ment sciemment. Et aujourd'hui, on a un problème qui est que le premier outil de régulation, et on revient à ce qui est l'enjeu de la discussion aujourd'hui, le premier outil de régulation en démocratie, c'est la parole, c'est pas la violence. Sauf que la parole, pour être régulatrice, elle doit être identifiée comme viable et elle doit être identifiée comme honnête. Et aujourd'hui, eh ben, y a bien peu de paroles gouvernementales qui apparaissent aujourd'hui comme honnêtes.
Jean-Claude Beaujour.
Oui, je pense que... Alors, je sais que monsieur Blanquer est un universitaire sérieux. C'est vrai que je pense qu'on ne se rend pas toujours compte, et là c'est le coup pour beaucoup d'hommes politiques, que parfois plutôt que d'admettre les choses, on préfère camoufler. Il aurait été plus simple de dire oui, j'ai reçu, oui, en tant qu'homme politique, je reçois tous ceux qui me demandent à être reçus. Et puis voici, admettre les choses, ça n'aurait pas été... Là, vous voyez, on part dans une polémique plus sur la forme que sur le fond, et malheureusement, les hommes politiques ne se rendent pas compte que l'opinion publique ne supporte plus cela. Je pense que c'est une leçon qui n'est pas suffisamment dite. L'opinion publique aujourd'hui, on a besoin de transparence, on a besoin que la parole publique soit crédible. Vous voyez bien que le sujet qui nous préoccupe, par exemple, il y a une incidence, parce que le sujet qui nous préoccupe, on dit le président de la République va parler. Mais pourquoi il parle? Parce que au cours de ces derniers mois, la parole publique a été décrédibilisée. Chaque fois qu'il y en a un qui a pris la parole, on s'est dit, eh ben non, etc. Donc ça montre bien que l'effort qui doit être fait, c'est un minimum de transparence, un minimum de rigueur. Arrêtez de se dire que je dis ça sur le moment et on ne va pas s'en souvenir 3 secondes après. Oui, et c'est cela qui décrédibilise. Ça fait plus de mal que le fond lui-même, que le fond du sujet.
Oui. Non, mais... Alors après si, on peut, si on se fait l'avocat du diable, Mediapart et Libération ont apporté un certain nombre de, d'informations. On peut lui laisser le bénéfice du doute. Ça n'a pas encore été jugé. Il dit pourquoi pas une commission d'enquête. Moi, je suis ouvert à une commission d'enquête.
Ben, il en faudrait une, mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a une tribune de défense de Jean-Michel Blanquer, signée par Claire Aupetit, Aurore Berger, dans Atlantico, qui accusait Libération, Mediapart, d'être une presse d'extrême gauche militante et dangereuse, qui utilisait des méthodes fascistes. Enfin, il faut voir que là, la majorité a complètement lâché la rampe. Ce n'est pas des méthodes. On parle de parlementaires qui sont en train d'attaquer les journalistes parce qu'ils font leur métier. Alors qu'on a eu les images de République, on va en parler. Enfin, c'est extrêmement grave ce qui se passe.
Ils font leur métier, Mediapart s'est planté un certain nombre de
fois. Peut-être qu'il s'est planté, mais là, c'est des preuves.
Les journalistes ne sont pas des auxiliaires de police non plus.
Libé, ils sont pas infaillibles non plus. Libé, ce n'est pas une presse d'extrême gauche, il faut arrêter.
Pas une presse neutre non plus.
On ne peut pas accuser les journalistes d'enquêter, c'est leur boulot. Et d'avoir, de balayer d'un revers de la main en disant « mais ce n'est pas grave, ça c'est de la presse d'extrême gauche, on va vite les interdire, vous inquiétez pas, c'est des séditieux », moi ça m'inquiète ce qui se passe. Parce qu'effectivement, la parole, elle est mensongère, décrédibilisée, mais à côté de ça, il y a tout la volonté de censure qui est à l'ordre du jour de ce gouvernement, qui devrait nous inquiéter tous, journalistes et citoyens.
Oui, Arnaud, oui, Benedetti. Enfin,
non, bon, la dégradation de la parole publique, malheureusement, elle ne date pas d'Emmanuel Macron, même si on a le sentiment qu'elle s'accélère un peu, et la crise sanitaire, comme ça a été relevé, l'a certainement encore sursouligné. Mais si vous voulez, dans cette affaire, je pense que Jean-Michel Blanquer est pour l'instant dans une communication du déni, c'est-à-dire il dit « circuler, il n'y a rien à voir », et puis il laisse entendre que ce sont des pratiques qui ont existé là aussi.
C'est ce qui est vrai aussi, sauf qu'il y a une petite différence là, manifestement, c'est qu'on a créé un syndicat ex nihilo, en tout cas une structure ex nihilo pour défendre la parole publique. Et les réformes
du ministre de l'éducation.
Voilà, absolument. Et je pense que il faut un pari qui est un pari que l'opinion publique est bien évidemment concentrée sur d'autres sujets, notamment sur la crise sanitaire et les conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire, que cela passera là aussi sans frais. Moi, je pense que c'est quand même un sujet, c'est quand même un problème, et surtout, je veux dire, à terme, sur un plan plus politique, vous savez que Jean-Michel Blanquer envisage d'être candidat à tête de liste de La République En Marche aux futures élections régionales
qui devrait se dérouler au printemps, on ne connaît pas encore la date. Je crains que, je pronostique même que cette affaire, en l'occurrence, soit profondément handicapante pour sa candidature potentielle.
Oui, absolument. Allez, je voudrais qu'on passe, évoquons le cas de ce qui s'est passé place de la République, où on a pu voir des images de migrants qui avaient installé leur tente place de la République. Les forces de l'ordre les ont démantelés, bousculés sans aucun ménagement. Ce camp de migrants, 500 tentes qui avaient été déployées par des associations, il faut le dire, pour alerter sur les conditions de vie des migrants, alors que plusieurs centaines sont en errance. On peut les voir un petit peu partout dans la capitale. La préfecture de police a expliqué que ce campement constituait une occupation illicite de l'espace public, et le ministre de l'Intérieur s'est dit choqué par ces images. Il a réclamé un rapport circonstancié. Alexis Poulain, vous vouliez revenir sur ces images. Alors c'est double interprétation. Il y a quand même une intention d'utiliser ces migrants, oui, de les mettre là en sachant exactement ce qui va se passer.
Oui. Alors les deux associations qui géraient ça l'ont fait à dessein. C'était pour donner la parole à ces migrants, parce qu'il y a eu le démantèlement d'un camp il y a 15 jours et 500 de ces personnes qui étaient dans ce camp de fortune n'ont pas retrouvé de solution d'hébergement, malgré les appels de la préfecture en disant qu'il suffisait d'appeler, de se présenter au guichet et qu'on trouverait une solution. Donc l'idée était de les installer place de la République pour faire un happening, pas pour les installer, mais pour dire voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et la réponse de la préfecture a été de nasser tout le monde et de taper sans discernement sur élus, journalistes, manifestants et migrants, en pensant que c'était une bonne solution. Je crois que Gérald Darmanin était obligé de prendre la parole parce qu'il a dû se faire remonter les bretelles à 24 heures d'une prise de parole présidentielle, qu'on voit de telles images en disant on est en train de discuter une loi de sécurité globale qui va rendre compliquée la diffusion de ces images de violence dans le cadre de l'action des forces de l'ordre. Donc il a dit que c'était choquant. Tant mieux qu'une enquête sera en cours et qu'il prendra des conclusions avant midi aujourd'hui. On est bientôt midi, on attend les conclusions de Gérald Darmanin. Ouais. Mais ça en dit long sur ce que je disais, sur l'attaque du pouvoir aujourd'hui sur la presse. Parce qu'on a vu hier le tabassage de Rémi Buzyne, qui est un des journalistes qui couvrait ces manifestations et qui, lui, n'a jamais été provoquant vis-à-vis des forces de l'ordre.
Est-ce que tout ça n'était pas fait aussi pour ça ?
Non, mais attendez, on peut démanteler sans tabasser des journalistes à terre. Y a vraiment, on passe des lignes rouges, les unes après les autres. Et puis après, on a Anne Hidalgo qui se drape toujours d'humanisme, etc., et qui fait raccompagner les migrants par des voitures de police pour les mettre loin de la ville de Paris. On ne sait pas où, mais on les voit partir à pied, escortés par des voitures. Donc ce qui s'est passé hier soir, c'est totalement inadmissible pour la violence qui a été déchaînée contre tous qui étaient là, en disant « c'est pas grave, allez-y, faut que ça aille vite, hein, délogez-les », et pour l'hypocrisie de tout le monde, finalement, dans ce problème migratoire qui est que si on n'est pas capable d'accueillir, faut pas accueillir, ou alors faut mettre les moyens, mais si on veut pas le faire, alors faut le dire, mais pas en traitant des gens comme des animaux. Et c'est ça qui est malheureux, c'est vraiment, on est en train de franchir toutes les lignes rouges à une vitesse phénoménale, en pensant qu'un scandale en chasse l'autre, et que cet après-midi, des députés vont voter une loi de sécurité globale extrêmement dangereuse pour nos libertés, sans prendre conscience du poids de ce vote pour le futur et pour l'avenir du cadre de l'État de droit.
Jean-Claude, bonjour.
Revenir effectivement, vous savez, à plusieurs reprises, aussi bien sur un certain nombre d'antennes, des voix se sont élevées pour dire que l'État de droit, c'est un peu la tarte à la crème. Je crois au contraire que l'État de droit, c'est vraiment la colonne vertébrale de notre démocratie. Donc il y a des règles, elles doivent être respectées, j'ai eu l'occasion de le dire, y compris lorsque les policiers font leur travail et on leur demande d'assurer notre sécurité, ça n'est pas discuté, ça n'est pas discutable. Là, en effet, les images étaient choquantes. J'ajoute que il ne faut pas oublier que le contexte actuel ne peut pas nous empêcher de penser qu'on parle d'êtres humains. On parle de migrants, absolument, on parle d'êtres humains. Absolument. Nous sommes au début de l'hiver. Vous savez, moi je suis frappé de voir comment il y a, y compris des jeunes qui, ici ou là, dans mon entourage, qui ont commencé à faire des maraudes, qui ont commencé à aller à la rencontre de personnes qui sont sans un toit, qui n'ont pas un repas chaud, etc. Je pense qu'au-delà de nos discussions, N'oublions pas cela parce que c'est aussi à la fois ce qui fait la grandeur de la France, mais aussi ce qui nous fait nous dire qu'il y a 60, il y a 70 ans, nous étions en guerre, nous avons eu aussi à fuir, nous avons pour un certain nombre été contents d'être reçus à droite ou à gauche, ou d'autres Européens sont venus en France, n'oublions pas cela. Rien ne justifie qu'on n'ait pas un comportement humain à l'égard d'hommes et de femmes qui sont dans le besoin ou qui sont dans la désolation. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est vraiment important qu'on se le dise. Et je félicite un certain nombre de mes confrères qui étaient sur place. Je pense à l'association Droits d'urgence, qui étaient sur place pour pouvoir être présents comme observateurs et pour rappeler que nous sommes un État de droit. Et ça, c'est notre bien le plus précieux.
Oui. Alors, je ne sais pas qui voulait intervenir. Arnaud Benedetti, ouais, pardon.
Moi, je crois que surtout d'abord, sur le fond, ces images, elles traduisent une désagrégation de la société française que l'on voit s'installer malheureusement depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, mais qui là aussi semble en constante d'accélération, si je puis dire. Ensuite, bon, il faut pas non plus totalement être naïf. Il y a eu, la volonté de la part d'un certain nombre d'associations d'instrumentaliser le problème des migrants pour, le faire jaillir politiquement de manière un peu spectaculaire.
Mais
il n'en demeure pas moins que ces images sont en effet particulièrement choquantes. Mais il ne faut pas totalement exclure de la part de l'exécutif un calcul politique aussi, d'une certaine manière, même si on peut imaginer que il n'a pas totalement maîtrisé la situation et la réponse policière, en l'occurrence. Mais c'est que, face à cette question de l'immigration, qui est devenue une question extrêmement clivante dans la société française, dont on voit qu'une grande partie de l'opinion publique réclame une plus grande, fermeté, une plus grande détermination dans la maîtrise, il y a un calcul politique aussi, vraisemblablement, de la part de la majorité et de la part de l'exécutif, d'en rajouter, si vous voulez, dans la démonstration de l'autorité vis-à-vis de ce sujet, en espérant, là aussi, pouvoir ramener vers elle et vers le pouvoir toute une partie de l'opinion qui réclame des mesures qui soient d'une très grande fermeté. Donc il y a aussi cette volonté-là, aujourd'hui, d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, de montrer qu'ils sont en train de prendre le problème à bras le corps. Moi, sur le fond, je pense que ça, c'est une situation qui va être interprétée d'abord de deux façons. La première, en effet, que ça rajoute dans le climat autoritaire qui paraît s'installer aujourd'hui dans l'exercice du pouvoir dans la société française, et que je ne suis pas sûr qu'il soit gagnant sur le front de l'opinion publique, parce que ça donne quand même fondamentalement aussi une image de grand désordre, ces incidents sur la place de la République. Donc je crains que, in fine, la majorité, enfin je crains, je suis bon d'or plutôt, qu'in fine la majorité et le gouvernement soient perdants sur les deux tableaux dans cette affaire.
Ouais. Allez, on marque une pause. François Coq, vous pourrez réagir. Et vous aussi, sur Sud Radio, la parole vous est donnée. 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, avec Jean-Claude Beaujour, Alexis Poulain, Arnaud Benedetti et François Coq. Alors François, vous vouliez réagir vous aussi à ce qui s'est passé place de la République. Des réactions tout de même d'un certain nombre d'auditeurs qui nous disent « mais c'est, on a quand même instrumentalisé ces migrants en sachant ce qui allait se passer, en sachant ».
L'idée, c'était de leur donner la parole, de dire qu'il n'y a pas de solution d'hébergement. C'était pas de les faire se faire tabasser.
Ça tombe pas comme par hasard au moment de la discussion de cet article 24, en sachant très bien que c'est interdit, qu'il y a occupation illégale de l'espace public et qu'il y aura forcément réaction des forces de l'ordre.
Mais
je dis pas que la manière était bien, mais il y a quelque chose d'assez dégueulasse quand même dans l'utilisation d'êtres humains, de les installer sur cette place en sachant qu'il y aura forcément une réaction
violente
des policiers.
Si c'est la seule façon de faire parler, la réaction aurait pu être tout autre, la discussion. pourquoi nasser systématiquement et attaquer avocats, élus, journalistes, manifestants et migrants? Pourquoi utiliser cette manière aussi violente? C'est des ordres. Les journalistes qui étaient sur place, le PDG de l'Ain Presse qui a 30 ans de pratique, a dit qu'il n'avait jamais vu ça en 30 ans de pratique. Et que clairement, la violence était sur ordre. Donc derrière, il y a vraiment un problème dans la doctrine, dans la façon dont le préfet allemand utilise la force et d'une manière disproportionnée qui flirte avec justement l'état de droit. Parce que là, on dépasse le cadre justement de l'état de droit. Et puis, derrière, oui, on va voir qu'on a un problème. C'est-à-dire que si on traite les plus faibles de cette façon-là, qu'est-ce que ça dit de ce gouvernement? Qu'est-ce que ça dit de notre société? Alors oui, on a un problème migratoire qui est beaucoup plus large que ce cas-là, que l'accueil, qui est aussi avec la coopération avec les pays du Sud, comment faire avec les frontières européennes, etc. C'est un débat beaucoup plus vaste. Mais sur la façon dont on traite des êtres humains dans notre pays de cette façon-là, en leur enlevant les tentes, la dernière chose qu'ils avaient, c'était leur tente, en tabassant des journalistes qui filment pour montrer ce qui se passe, en France, en 2020, mais enfin, on est où?
Alors François, oui. François Coq.
Oui, je disais tout à l'heure que quand la parole s'éteint, la violence prend la place. Hier, c'est typiquement ça. Bien sûr que les associations ont voulu alerter sur une situation bien spécifique qui est un camp qui a été détruit, évacué, sans solution de logement qui ont pu être reproposées à tous. Là, logiquement, d'habitude, dans ce pays, la discussion s'engage avec les autorités, à la fois pour trouver des solutions par rapport à ce problème spécifique et de manière plus globale sur les considérants politiques de la politique migratoire. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de discussion. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans et on bascule immédiatement, au contraire, on bascule immédiatement dans une chasse à l'homme. Parce que hier, c'est ça qui a eu lieu à Paris. Une chasse à l'homme dans tout le centre-ville de Paris avec grenades de désencerclement, à la fois contre des migrants et des réfugiés, à la fois contre les bénévoles associatifs, contre des élus de la République et contre des journalistes. Les images qui sont celles de Rémi Buisine, le journaliste, à terre, matraqué par des policiers, ensuite menacé par des policiers qui n'ont pas de RIO, qui ne sont même pas masqués, sont des images qui ne sont pas soutenables. Et de ce point de vue-là, il faut se demander politiquement d'où viennent les ordres. Moi, je ne voudrais pas qu'on rentre à nouveau, comme on l'a trop connu du temps de M. Castaner, dans cette espèce de double jeu conduit par le ministre de l'Intérieur, qui, par derrière, dit aux forces de l'ordre qu'elles ont les mains libres pour faire tout et n'importe quoi, tout ça piloté par le préfet allemand, et qui, en public, vient de dire « Oh oui, ces images sont choquantes ». M. Darmanin a dit qu'il y aurait des conséquences, qu'un rapport devait lui être rendu. Eh bien, on les attend aujourd'hui, mais qu'il sache bien que même cela ne suffira pas, car personne n'est dupe aujourd'hui de l'instrumentalisation de la violence qui est faite par le pouvoir.
Ouais. Arnaud Benedetti, sur l'analyse politique et sur effectivement les ordres qui ont été donnés et sur ce qui a été fait hier, on pouvait s'attendre. Enfin, il n'y a pas eu de discernement là encore une fois dans les ordres qui ont été donnés. Arnaud ? Ah, j'entends plus Arnaud Benedetti. Je n'entends plus personne.
Ah, mais vous m'entendez ?
Allez-y. Oui, je vous entends, Jean-Claude, bonjour.
Moi c'est Jean-Claude. Oui, en attendant, Arnaud, là encore, on peut bien imaginer...
Ça marche,
on pas du... il peut y avoir un jeu, une instrumentalisation de la part de certains. C'est pas là le sujet. Le sujet, et pardonnez-moi de redire une évidence, le sujet, c'est que vous avez des individus qui, malgré tout, sont des individus en situation de faiblesse. On peut faire respecter la loi sans pour autant avoir des comportements ou une attitude qui va au-delà de ce qui est humain, qui est acceptable sur le plan humain. Je pense que c'est ça le vrai sujet, parce qu'évidemment, sur toute manifestation, vous avez toujours une dimension politique d'un côté ou de l'autre, et d'un côté et de l'autre. La question n'est pas là, la question c'est... Toutes choses étant égales par ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien oui, il y a un comportement humain à avoir, même lorsque les gens sont auteurs de... vous savez, occuper une place, c'est pas porter atteinte à la sécurité du pays. Donc on peut aussi trouver la juste mesure dans la réponse à apporter. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est vraiment important.
Alors Arnaud, je vous lis juste le commentaire de Xavier, nos auditeurs fidèles, qui dit « Moi, je me ressens sur les violences policières envers les journalistes, c'est inadmissible, surtout au moment où une loi liberticide pour la presse va être votée. Vous avez raison, c'est un piège et ils sont tombés dans le panneau. » Parce que c'est exactement
oui,
ce qui se produit ce
vous
matin.
Vous avez raison. Oui, vous avez raison. Ça tombe au plus mal, en l'occurrence, cette affaire pour l'exécutif. Alors, l'usage disproportionné de la violence depuis 3 ans, il ne date pas d'hier soir. Non. Souvenons-nous quand même du mouvement des Gilets jaunes, où là aussi, bien avant le préfet Lallemand et sous M. Castaner, il y a eu quand même un usage pour le moins contestable des forces de l'ordre dans le contrôle des manifestations des Gilets jaunes au mois de novembre et décembre et tout au long de l'année 2019. Par contre, à mon sens, et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est les déclarations de M. Darmanin, qui semble prendre ses distances avec la façon dont le préfet de police a géré cette manifestation hier soir. Ça va lui poser un problème, parce que M. Darmanin, depuis qu'il est arrivé au ministère d'Intérieur, n'a eu de cesse d'essayer de réparer le malentendu qui s'était installé entre l'exécutif et le corps social de la police suite à la fin du ministère, à la fin de M. Castaner au ministère de l'Intérieur. Donc je pense qu'on en arrive aujourd'hui à une situation où nous avons en effet un exécutif qui joue un jeu assez malsain avec la police, en l'occurrence, en voulant donner des gages d'un côté, en laissant quand même quelque part la bride très haut levée pour que les forces de l'ordre et surtout le préfet Lallemand puissent gérer la situation sur le terrain à sa guise, en prenant parfois les plus grandes libertés, en effet, avec le respect de l'état de droit, et qui, tout d'un coup, soudainement, face au surgissement d'images qui choquent, d'ailleurs, autant à droite qu'à gauche, je le constate, se trouve aujourd'hui dans une situation où il essaye, en effet, de reculer par rapport au soutien sans faille qu'il a porté aux forces de police. Là, encore une fois, on est dans les limites du « en même temps », me semble-t-il, et on est dans les limites du « en même temps » dans une situation qui est en effet assez dramatique, en l'occurrence.
Mais oui. C'est vraiment une question aussi de qui commande. Est-ce que c'est le ministre ou est-ce que ce sont les syndicats de police qui décident Place Beauvau de la politique et des lois puisqu'encore une fois, cette loi de sécurité globale, avec l'article 24, elle est clairement poussée par les demandes syndicalistes. Et c'est normal que le ministre écoute, discute, mais est-ce qu'il décide ? Est-ce qu'il commande ? Et la question mérite d'être posée, parce qu'on voit bien le rapport de force qui est en jeu. Rappelez-vous, Christophe Castaner part, alors que tous les soirs, les policiers jettent les menottes et manifestent par rapport à ce ministre qui les aurait lâchés. Donc, on est en train, cette majorité est en train de mettre en place les outils nécessaires pour un État policier, ni plus ni moins, en cassant les contre-pouvoirs, en bafouant la République, les valeurs républicaines. Alors, on a beau jeu, après, de faire des lois pour renforcer les valeurs républicaines, lutter contre le séparatisme, quand un préfet utilise de la force systématiquement pour tout et n'importe quoi, en pensant que les lois sont en préparation pour couvrir ces exactions. Parce que là, il est question de répression, il n'est plus question de maintien de l'ordre. Vous parlez de chasse à l'homme, c'est très juste. C'est exactement ce qu'il s'est passé hier avec un policier qui dit à Rémi Buzyn, je t'ai attrapé déjà deuxième fois, jamais 203, en rigolant, alors qu'il vient de le tabasser. Non mais, rendez-vous compte du mal qui est fait à notre pays sous ce quinquennat. Et encore 2 ans. Mais il faut rappeler à Emmanuel Macron que la devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est pas tabasser, obéir et punir. Il va falloir qu'il se mette ça dans le crâne. Et que clairement, les choses changent. Parce que derrière, l'opposition est faible, les contre-pouvoirs sont extrêmement faibles et les Français sont inquiets. Et à juste titre. Et l'opinion internationale est inquiète. La Commission européenne, les droits de l'homme, les partenaires européens, et j'en passe. Donc il se passe vraiment quelque chose de très très pourri en France.
Allez, on va marquer une pause et on revient avec un autre sujet. L'intervention d'Emmanuel Macron ce soir, que va-t-il dire ? Que peut-il annoncer ? Ce déconfinement ou cet allègement du confinement, jusqu'où ? On n'en attend peut-être pas grand-chose. Dites-nous en tout cas ce que vous en attendez. 0826-300-300. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Le président de la République doit donc s'exprimer ce soir lors d'une allocution solennelle à la télévision. Ce sera à 20h pour annoncer des mesures d'allègement. Donc 3 semaines après des mesures drastiques, après la mise sous cloche du pays pour tenter d'endiguer la deuxième vague du Covid-19, le président de la République doit révéler un certain nombre de mesures d'assouplissement. Il y a eu un certain nombre de fuites, on peut même appeler ça des voies d'eau carrément, puisque il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été annoncées. Arnaud Benedetti, vous comprenez que ce soit le président de la République, vous qui êtes spécialiste de la parole politique, que ce soit lui qui s'exprime alors que tout a déjà plus ou moins été dit. Que peut-il dire ce soir et pourquoi cette solennité?
Vous avez raison, c'est des voies d'eau, c'est une avarie presque en l'occurrence qui vient sur les rédactions. Je vois pas d'ailleurs tellement l'intérêt de ce petit jeu sur le plan de la communication, parce que si l'on veut que la parole du président de la République soit forte, il vaut mieux être discret en amont et lui laisser la primeur des annonces. Mais on voit bien qu'il s'agit de créer vraisemblablement et de susciter un intérêt, une attente, une curiosité, une espèce de teasing permanent pour mettre en relief la parole du monarque. Je ne suis pas sûr que les Françaises et les Français soient totalement dupes de cette façon de procéder. Mais enfin bon, chacun utilise les canons de la communication comme il entend les utiliser. Moi, je crois que très franchement, je veux dire, on va avoir une parole présidentielle qui va, comme à son habitude, d'abord essayer de légitimer finalement ce deuxième confinement, cette saison 2 du confinement qui a été quand même pour le moins controversée et parfois critiquée par un certain nombre d'observateurs et d'acteurs de la crise sanitaire et également, bien évidemment, les opérateurs économiques qui sont en première ligne et qui subissent de plein fouet pour certains dans leur secteur ce reconfinement. Donc on va avoir certainement un discours qui va nous narrer la réussite incontestable de ce confinement qui permet finalement de remaîtriser l'épidémie. Et puis le président de la République peut en effet se réserver l'annonce d'un certain nombre de bonnes nouvelles comme éventuellement la réouverture des commerces très maladroitement qualifiés de non essentiels au début de ce confinement par, je crois, le Premier ministre. Et puis on ira 24 heures plus tard, la prise de parole du Premier ministre et de ses ministres qui va nous expliquer que finalement, ce confinement, il n'est pas tout à fait terminé et donc ils annonceront les mauvaises nouvelles. C'est une façon finalement de laisser à son Premier ministre le soin d'absorber l'impopularité vraisemblablement de la gestion de cette crise sanitaire.
Mais alors pourquoi intervenir, Jean-Claude Beaujour?
Oui, enfin, moi je pense là, qu'on a un souci parce qu'on peut plus se contenter de faire de la communication. Vous savez, on a beaucoup dit cours de ces dernières semaines qu'il y a que l'ambiance est morose, qu'il y a un malaise généralisé. On s'est inscrit, on s'est installé. Vous-même, vous avez dit allongement, allègement, on ne sait plus où on en est. Vous avez parfaitement raison. Et on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de faire de la communication, qu'elle soit politique ou autre. Nos concitoyens, enfin nous vivons au quotidien sur le terrain, nos concitoyens en ont assez. Vous savez, au bout de 9 mois, ça fait 9 mois que nous vivons une situation comme celle-là. Moi, j'entends dire que tout cela va se prolonger plus ou moins malement ou de manière très différente jusqu'au printemps, voire à l'été. C'est très difficile et nous avons beaucoup de gens qui vivent cette situation en pleine détresse. Donc, on ne peut plus se contenter de faire de la communication. Je pense que là, c'est le dernier carré. C'est-à-dire, si la parole du président ne prend pas véritablement, je crains que derrière, que ce ne soit une situation en boomerang. J'espère qu'elle prendra. J'espère qu'en dépit des fuites ou des eaux, de tout ce qu'on veut, j'espère qu'il y aura quand même 2 ou 3 éléments qui vont permettre de rétablir une forme de confiance, d'espérance chez nos concitoyens. On ne peut pas jouer avec le moral de nos concitoyens, surtout pas. Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. Ne jouons pas avec cela, c'est pas simple. Allons maintenant.
Oui, malgré cela, un auditeur nous dit « Macron pense prendre quelques points dans les sondages, sera-t-il déguisé en Père Noël ?» Il est en train de remonter dans les sondages,
Mais pardonnez-moi, oui. Valérie Expert, vous avez raison de parler des sondages, mais on ne peut pas simplement, ils sont importants les sondages, mais moi j'ai envie de dire, au-delà des sondages, écoutons plus généralement nos concitoyens. On ne peut pas simplement dire « bon, ben, les sondages remontent et tout est bien ». Non, on part de très bas, Donc ça remonte peut-être un peu, mais on est loin du compte. Nous allons aborder les problèmes sociaux, les plans, les faillites et autres qui vont, que nous allons devoir affronter. Ben ça, vous savez, 4 points de sondage, ça ne dit rien à quelqu'un qui a perdu son boulot.
Bien
pardonnez-moi
sûr,
de vous
sûr.
Dire.
Non, ça mais ne dit rien vous du avez tout. Entièrement raison. Alexis,
c'est même pire que ça. C'est cette réalité alternative qui est entretenue par une sphère politico-médiatique qui tourne à vide sur elle-même. Ça en devient ridicule, ces sondages du journal du dimanche systématique où chaque semaine, Macron prend 3 points, mais on est où ? Il casse les libertés, il enferme les Français, la gestion de la crise est catastrophique, la France a les pires chiffres en Europe, et il monte dans les sondages. Super ! Alors, tant mieux, il reste dans un monde parallèle, que de temps en temps, il vient nous parler comme à des enfants. Donc ce soir, le président va prendre la parole.
Un cap, la clarté, c'est ce qu'on nous annonce.
C'est ce qu'il annonce le dimanche dans l'organe de presse officiel qui est devenu le journal du dimanche. Un cap, la clarté, il se moque de lui-même. C'est-à-dire que depuis mars, on n'a eu qu'une improvisation calamiteuse. Et là, ce soir, on a un président de la République qui va prendre la parole pour nous dire si on a enfin le droit ou pas de racheter des chaussettes. Mais on est où ? Et les mecs, avant ça, ils prenaient du temps pour faire des décrets, pour dire est-ce que les Français peuvent acheter par décret un sapin de Noël ? Mais attendez, on a des attaques terroristes en ce moment sur le territoire, des faillites qui vont être nombreuses, une crise sanitaire qui n'est pas gérée, et ces gens-là prennent du temps pour des idioties pareilles. Et là, le président va nous prendre pour les enfants ce soir. Je crois que les Français ne l'écoutent plus, tout simplement. Et ça tourne à vide. Et effectivement, ça nous occupe. Sur les plateaux, on en parle, etc. Ouais. On le regarde, on est bien gentil. Mais que ça ne sert plus à rien. Sa parole, elle est totalement dévalorisée, délégitimée. Les gens en ont ras-le-bol de ce Covid. Les gens en ont marre d'être pris pour des idiots. Et si ça continue comme ça, parce que clairement, là, c'est sauver Noël. Hein. C'est à peu près le message qui est donné. Mais en janvier, ça va être il faut peut-être reconfiner parce que les chiffres, ils sont peut-être mauvais. Ça passe. Passera pas. Troisième confinement, ça passera pas.
Oui. François Coq.
Oui, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la pantomime de l'Élysée. Vous l'avez dit, ça fait 4 jours qu'on a les informations, qu'on sait ce que va annoncer le chef de l'État, mais on nous dit ce matin que toute la journée, le chef de l'État va consulter pour savoir ce qu'il va dire ce soir.
Bon, tout ça, on va peut-être être surpris, finalement.
Oui, peut-être. Tout ça a un côté grotesque et on est quand même un petit peu pris pour des imbéciles. La deuxième chose, c'est que clairement, Emmanuel Macron va essayer d'étaler la confiture. Lui, il a besoin que la situation dure d'une certaine façon le plus longtemps possible parce que c'est un parapluie pour lui et pour la politique qu'il met en œuvre.
Je ne suis pas sûr qu'il ait intérêt à ce que l'économie s'effondre totalement.
Non, mais qu'il étale le déconfinement, il a tout intérêt à le faire et ne doutez pas qu'il va le mettre.
Mais pourquoi ? Pourquoi il a intérêt à ce que le confinement s'étale, selon vous ?
Mais parce que sinon, la réalité crue de sa politique et le bilan qui est le sien vont être mis sur la table et l'un comme l'autre sont catastrophiques. Et il devra donc rendre des comptes avant même que de pouvoir être engagé dans l'élection présidentielle. Et j'en viens à mon troisième point, justement. C'est que ce soir, on va avoir à nouveau Emmanuel Macron qui va faire du homard et Fred. Il va faire du service après-vente. Il va faire le service après-vente pour nous expliquer que le déconfinement du mois de juin s'est bien passé et que c'était formidable. Ouais. Il va faire du service après-vente pour nous dire que le deuxième confinement était magnifique, que non, nous n'avons pas réagi trop tard. Non, les mesures qui ont été prises n'étaient pas incohérentes. Et d'ailleurs, nous sommes les meilleurs en Europe, dans le monde et dans l'univers. Et que toutes celles et ceux qui, comme l'étude qui est sortie hier, qui dit que la France a le 18e plus mauvais bilan sanitaire et dans l'application des mesures prises, que tout ça ne compte pas parce que, comme il l'avait dit la dernière fois, nous avons été touchés plus tôt et plus fort que les autres. Voilà. Et nous, il va falloir que nous fassions comme si nous n'étions pas des citoyens, mais de simples spectateurs et à dire bravo, bravo, merci aux comédiens.
On transforme les citoyens en sujets téléspectateurs. Il faut télécharger Télécovid, hein, comme dirait Jean Castex, et puis écouter la bonne parole du bon père des peuples qui est devenu Emmanuel Macron. C'est ridicule. On a l'impression de vivre dans une principauté d'opérette.
Oui, Arnaud Benedetti. Enfin, il va quand même annoncer des choses ce soir. Il va quand même annoncer des choses ce soir. Il va y avoir visiblement quand même un allègement de ce confinement avec la réouverture des petits commerces.
Oui,
c'est ça. Enfin, il faut éviter de se faire trop le relais du plan de communication, parfois, de l'exécutif, en l'occurrence. Parce que, évidemment, je veux dire, on est là pour finalement commenter la ligne éditoriale qui a été fixée par l'Élysée, c'est-à-dire l'allègement du confinement. On ne parle pas de déconfinement, d'ailleurs, et on répète en boucle l'allègement du confinement. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient d'être dire, c'est-à-dire qu'en fait, on a un storytelling qui est en train de s'installer, un récit pour justifier ce deuxième confinement qui posent question quand même sur le fond. On nous annonce des chiffres parce que quand même, quand, moi je suis assez surpris que, je veux dire, on prenne les chiffres qui nous sont annoncés régulièrement par l'exécutif pour argent comptant. On nous dit formidable, regardez, on a réussi à faire baisser la pression épidémique grâce à ce confinement et grâce au couvre-feu. Sauf que si l'on regarde les données de Santé publique France, la pression épidémique, notamment autour de ce qu'on appelle le fameux R0, et elle a commencé à baisser 5 jours seulement après le couvre-feu, en l'occurrence. Et tous les épidémiologistes vous disent qu'on ne peut avoir des effets par rapport à des mesures sanitaires de ce type que 15 jours. Donc, aujourd'hui, quel est l'intérêt de cette prise de parole? Fondamentalement, encore une fois, c'est d'accréditer que la stratégie qui a été prise par l'exécutif était la bonne, en l'occurrence, et qu'encore une fois, le pouvoir politique est en mesure de contrôler la situation sanitaire, ce qu'il n'a pas du tout été capable de faire, parce que, je terminerai juste un point, si on a reconfiné, c'est bien le résultat finalement de l'échec non seulement du déconfinement et de l'échec du retour d'expérience que l'on a fait de ce qui s'est passé au mois de mars et au mois d'avril. Parce que quand même, la pression hospitalière sur laquelle, qui est la cause matrice finalement du reconfinement, on n'a rien fait dans l'entre-deux pour essayer justement de la résoudre. Et on s'est servi de la société comme variable d'ajustement en limitant la circulation, le commerce, pour tout simplement, je veux dire, d'une certaine manière, faire passer la nécessité de reconfiner.
Mais c'est terrible parce qu'il n'y a pas de plan pour les faillites qui vont arriver, là, pour les TPE-PME qui sont 90% de l'emploi en France. Et là, vous avez des gens qui ont leur vie dans leur affaire, qui voient le truc tomber à l'eau et qui savent très bien que de toute façon, ça ne va pas reprendre. Le tourisme ne va pas revenir. L'année prochaine sera une catastrophe sur le plan économique. Et même si on déconfine et je ne sais pas dans quelles conditions, il y a des secteurs entiers qui sont sacrifiés. On est là dans du sacrifice pur et simple. Et peu importe les mesures portées par Bruno Le Maire, qui sont au pire un pansement sur une jambe de bois, les faillites seront nombreuses. Et il n'y a pas de plan. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire que là, Emmanuel Macron gagne du temps et dans le déconfinement et dans la faillite de l'économie française.
Oui, François Coq.
Oui, il n'y a aucune anticipation et aucune planification. Finalement, vous savez, Emmanuel Macron a mené une campagne en 2017 où il a dit qu'il allait libérer les énergies et en prétendant aux gens que le recours à la solution individuelle allait être la panacée de tous. Et aujourd'hui, on se rend compte, avec la crise du Covid, mais pas simplement, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un besoin avant tout de protection et de mise en œuvre collective pour pouvoir aujourd'hui s'en sortir dans un monde qui est en déliquescence. Et finalement, Emmanuel Macron se retrouve sans logiciel adapté à ça, et il peut nous dire que c'est le nouveau monde demain, mais il est incapable de faire tourner le navire amiral parce que ça va à l'encontre tout simplement de ses convictions. Donc rien n'est prêt pour la grande crise économique qui s'annonce, qui s'avance et qui est déjà là. Voilà, parce que les annonces de plans de licenciement aujourd'hui se succèdent et que celles et ceux qui sont dans les tiroirs font que ceux-là sont malheureusement bien remplis. Voilà, on voulait, je crois, parler aujourd'hui de Danone. Enfin, aujourd'hui, comment fait-on face à une situation où aucune mesure n'est prise quand on a une boîte qui, comme Danone, a versé 1,5 milliard de dividendes à ses actionnaires au mois d'avril et qui annonce aujourd'hui qu'elle va pratiquer en France entre 400 et 500 suppressions de postes, alors même que cela va servir de justification à des erreurs de politique industrielle, puisque son PDG disait que, en fait, c'est parce qu'ils avaient un portefeuille trop important avec 400 marques différentes. Ben, on voit bien que la crise, finalement, elle va servir aussi de prétexte pour des dégâts économiques et surtout sociaux.
Ouais. Restructurer. On pense encore une fois à nos amis restaurateurs qui, eux, ne rouvriront certainement pas avant le mois de janvier et, comme on l'a entendu hier avec Jean-François Piège, qui ne reçoivent pour l'instant pas vraiment d'aide du gouvernement, ou très très peu, compte tenu de leurs pertes.
Et il faut parler aussi du secteur culturel. Hein. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites, mais rien n'est arrivé.
Oui, absolument. Merci à tous les quatre. Merci à vous. Dans un instant, André Berkoff sera avec vous. Et nous, on se retrouve demain pour d'autres infos sur Sud Radio. À demain.